Commentaire du livre Zeta, Saint Joseph, Père Philippe, le 28 février 1985.
Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a pu voir? Je reprends le chapitre 17, chapitre 7, et puis on avait commencé. Parmi les choses qui sont en devenir, tone, gignomenon, ta, me, fousei, gignestai, ceux qui savent bien le grec, hein, n'hésitez pas de revenir au grec. Parmi les choses qui sont en devenir, les unes le sont par nature, les autres par l'art, d'autres en effet par l'effet du hasard. C'est intéressant cette division. Vous voyez, la méthode de division, qui est la méthode platonicienne, on commence par énumérer les divisions. Alors évidemment, Aristote donne ça, ce n'est pas une conclusion, c'est le fruit de toute une induction. Le fruit de toute une induction. On ramène le devenir à la nature, à l'art, au hasard. Quand on est devant une division comme ça, il faut toujours soi-même la secouer pour voir s'il y a pas d'autres divisions. Les choses par nature, la génération d'un petit chien, il est venu, c'est naturel, il est apparu. L'art, on voit bien tout ce qui provient de la techné. Et le hasard, vous voyez, pour Aristote, le hasard, d'où ça provient, la matière. Ça, il faut comprendre. Des choses monstrueuses. C'est que la nature ne domine plus. Alors on a un monstre. Et le monstre, c'est le hasard. Quelque chose qui provient en dehors de la volonté de l'homme, en dehors de la nature. C'est le hasard. Alors on dira, au point de vue chrétien, que le hasard n'existe pas et que tout relève de la providence. C'est très juste. Pourquoi ? Parce que, au point de vue chrétien, nous disons que la cause matérielle vient de Dieu. Mais pour un philosophe qui n'est pas encore dans la vision de la providence, la vision de la providence au point de vue philosophique se développera chez les stoïciens. Ça met du temps. Je dis ça pour que progressivement vous voyez bien la naissance de ces problèmes. Parce que c'est toujours intéressant. Alors, Aristote n'a pas du tout cette vision de la providence. Alors, c'est le païen. Mais non, c'est parce qu'il est dans l'analyse. La notion de la providence est une vision de sagesse que les stoïciens ont donnée. C'est très beau, c'est très grand. Nous essaierons de la voir dans notre vision de sagesse parce que c'est intéressant de bien situer à quel moment il faut voir ce problème de la providence. Mais pour Aristote, le hasard, c'est justement tout ce qui est en dehors des intentions de la nature et des intentions de l'homme. Ce qui échappe aux intentions. Alors c'est le hasard. Et la racine du hasard, c'est ce que Platon appelle la cause errante, c'est-à-dire la matière. Et on voit bien, là, la cause errante, la matière, tout ce qui provient de quelque chose qui n'est plus dans l'intention de la nature et dans l'intention de l'homme. Alors, à ce point de vue-là, on voit tout de suite, vous voyez, que c'est en effet une division qui est bien adéquate. Vous avez la nature, la phusis. La phusis, c'est quelque chose de fondamental. Puis vous avez l'art. Toujours l'analogie de l'art et de la nature. Hein. Perpétuellement. Cette fameuse affirmation d'Aristote qu'on a très mal compris parce qu'elle est divisée en courants. L'art imite la nature. Hein. Quand on dit ça, l'art imite la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que la nature est quelque chose de fondamental et que l'art est quelque chose de second. Parce que l'art ne peut se réaliser qu'à partir d'une matière naturelle. Alors c'est pour ça qu'on dira l'art imite la nature, mais ce n'est pas du tout une copie. Imite la nature, c'est le terme des pythagoriciens qui montre que la nature est quelque chose de premier et que l'art est quelque chose de second parce que ça provient nécessairement de l'homme. C'est-à-dire que la nature est antérieure à l'homme. Elle est quelque chose de plus fondamental que l'homme. Je ne réalise pas la nature. Les données de la nature, elles s'imposent à moi. Mon pauvre corps, il s'impose à moi. C'est la nature, ça. Il y a tout l'atavisme. Enfin, modifier un tout petit peu, mais pas grand-chose. Si j'ai mal au foie, c'est mes ancêtres qui ont mené une vie qui était particulière. Alors, bon, alors ça, c'est l'homme, point de vue, qui est second. Et c'est ça que ça veut dire. L'art imite la nature. Quand on dit l'art imite la nature, et achève la nature. Il ne faut jamais oublier. Aristote dit les deux. Alors on a laissé tomber le second. L'art imite la nature et complète la nature, achève la nature. Oui. Pour bien montrer que l'art est le fruit d'une poiesis, c'est-à-dire d'une création. Poiesis, c'est le point de vue de quelque chose par où l'homme réalise quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas du tout, hein, quand on dit l'art imite la nature et qu'on dit copie la nature, c'est pas ça du tout. Alors là, c'est un contresens complet. C'est la grande vision, pythagoricienne où l'homme est saisi par la nature, et la nature, c'est le monde céleste. Hein. On est pris dans un monde, c'est la nature dans sa totalité, c'est l'univers, c'est le cosmos, la nature. Et l'homme fait partie de cette nature, et dans ce cosmos, l'homme entre dans le rythme de la nature et la dépasse. Et l'art, c'est ce dépassement. L'art est un dépassement du cosmos. Alors à ce moment-là, ça devient très beau, vous voyez. Ça devient ce que Malraux disait, anti-destin. Et c'est ça que ça veut dire. Et quand Malraux dit ça, il est tout à fait dans cette même perspective. Anti-destin, parce que le cosmos il est commandé par une nécessité, la nécessité de la nature. La nature a quelque chose de nécessaire. La nature est déterminée ad unum. Quand on dit elle est déterminée ad unum, c'est justement elle est dans une loi de nécessité. Donc elle est déterminée ad unum. C'est ça le propre de la nature. Et toute la grande vision grecque de la nature et du cosmos. Alors, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, c'est bien évident, parce que c'est toujours la question du Decello. Il faut bien comprendre le Decello. Il faut lire le Decello, parce que c'est tellement beau. C'est pas vrai, mais c'est beau. C'est quand même agréable de voir quelque chose de... C'est beau, c'est la vision cosmique de Decello, et Duhem. Duhem sur le Decello, sur le toute la grande vision grecque des corps célestes. C'est important, ça, parce que ça donne la vision très très belle du cosmos. Ce que c'est le cosmos, hein, c'est qu'il est ordonné, et il implique un grand ordre de nécessité. Et il nous donne le sens du nécessaire. Le nécessaire, on l'a appris par là. Alors, à l'intérieur de ce cosmos, il y a une possibilité d'achèvement.
Comment, de quelle manière il faut dire que l'art respecte la causalité naturelle, c'est-à-dire...
C'est pas respecter. Imite, c'est entrer dans le rythme de la nature. C'est ça, c'est pas le respect, c'est entrer dans le rythme de la nature. C'est ça, imiter la nature. Imiter la nature, c'est d'entrer dans le rythme du cosmos, du Decello. C'est pas du tout les éléments. Hein.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a on respecte un ordre qualitatif?
On respecte un ordre de finalité plus qualitatif, si vous voulez.
Donc on va retrouver dans l'œuvre d'art une similitude qualitative entre l'œuvre et la nature ou pas?
Non, parce qu'il y a un dépassement. il y a l'intervention de l'homme, du nous de l'homme, qui va permettre, vous voyez, c'est ça qui est au fond une chose très très belle, c'est que la nature, le cosmos, n'est pas achevé. Il demande d'être achevé par l'art. Bon, c'est ce qu'on verra dans Dante, quand Dante dira l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. Et petite fille de Dieu par l'intermédiaire de l'homme, qui lui-même est lié à la nature, mais parce qu'il a le nous, il dépasse. Alors, c'est une grande vision, beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus que celle de Platon, parce que Platon n'a pas ça. Pourquoi ? Parce que de fait, Platon rejette la matière. La matière est mauvaise. Or, l'art nécessairement coopère avec la matière. Et donc l'art est perverti des points de départ, ce qui coopère avec la matière. La matière est mauvaise. Alors, il y a une perversion, alors que pour Aristote, la nature est bonne, la nature est maternelle, parce que la matière est un appétit vers le bien. Cet appétit vers le bien est imparfait, parce que la nature implique toujours la matière, mais la matière qui est la présente, et la matière implique une indétermination. C'est pour ça que Platon dira que la matière est cause errante, et Aristote reprendra bien ce point de vue de la cause errante. La matière est une cause d'indétermination, mais vous comprenez, elle est cause d'indétermination, et c'est merveilleux qu'elle soit cause d'indétermination. Parce qu'il y a la place à l'art. S'il n'y avait pas cette indétermination, il n'y aurait pas de place à l'art. Et c'est par ce point de vue de la matière, en comprenant bien la matière, ce n'est pas la matière prima, hein, c'est la cause matérielle, c'est-à-dire ce qui, dans notre univers, est source d'indétermination. Et c'est toute cette source d'indétermination que l'intelligence humaine va pouvoir capter. Elle va pouvoir déterminer. Jusque dans les satellites, arriver à faire des choses comme ça, c'est au fond une détermination. Alors quelquefois c'est une détermination qui n'est pas toujours. Mais c'est quand même toujours la même idée profonde, c'est que l'univers, notre cosmos, implique une possibilité d'achèvement. Et c'est l'art qui va achever. Alors, l'achèvement peut être anarchique, et l'achèvement peut être au contraire harmonieux. Ça, c'est très difficile. C'est toute la question constante qu'on doit se poser lorsqu'il s'agit du travail et quand il s'agit de l'art. Est-ce qu'on coopère avec la nature ou est-ce qu'on la tyrannise ? Pour moi, c'est la grande question. Et c'est la question à laquelle on doit tout le temps venir.
Est-ce que, en fait, ça ne répond pas mieux par le biais de la nature à la réponse que l'on posait hier ?
Oui, j'ai pensé. C'est pour ça que j'y venais. Je revenais à cause de ça. Parce qu'à cause de ça, on voit beaucoup mieux le point de vue comment la nature. Hier, on l'avait posé autrement, on risque tout le temps quand on répond directement. Alors, je reprends la question ici parce que le texte nous demande, et je pensais à ça, c'est que c'est la nature comme telle qui ou est complétée, achevée ou tyrannisée. Et ceci, c'est général, vous voyez. Je me souviens, c'est vieux, parce que ça dépend de... C'était en 5 ans. La première fois que j'avais été aux États-Unis. Et alors, j'avais été sur le Liberté. Donc, on avait du temps. C'est merveilleux de faire une traversée de l'Atlantique. On avait tout le temps. Alors, sur le bateau, il y avait retour un jeune français de 22 ans. J'étais parti à 18 ans. J'étais en clair jumain, ce n'était pas en dominicain, mais vous voyez bien qui j'étais. Il est venu tout de suite me voir, faisant des déclarations qu'il était parti en Amérique et qu'il était revenu aux États-Unis et qu'il était devenu marxiste. Les États-Unis l'ont mis dans un état tel qu'il était devenu marxiste. Il y a eu des combats merveilleux ensemble. On avait le temps, de bavarder. Et ce qui m'a été très beau quand il est revenu sur la France, quand il est revenu du Havre, qu'il est revenu sur Paris, il est venu me voir, il regardait. Là, c'est pas la même chose ici. Ici, on cultive en Amérique. truc qu'on exploite. J'ai beaucoup aimé ça. Mais ça m'est resté, parce que ça venait du cru, hein, de quelqu'un qui on cultive. Toute la différence entre cultiver et exploiter. C'est quand même capital, ça. Alors, je crois que c'est là la question. L'art coopère avec la nature. On coopère avec la nature pour l'achever, la perfectionner. Et c'est pour ça que je dis, quand l'art détruit l'homme, il détruit la nature. Et ce n'est pas le point de vue moral, c'est l'aspect fondamental de la nature. Alors, c'est exploiter, exploiter, c'est détruire. C'est là où on se pose toujours la question, vous voyez, quand on va très très loin dans l'ordre de la technique, quand on va très loin dans l'ordre de la domination de l'homme sur la matière, est-ce que de temps en temps, on ne franchit pas une limite? Vous voyez, ce que les Grecs, ils avaient très peur de ça, l'hubris, hein, l'orgueil de l'homme, quand l'homme dépassait la limite. Quand l'homme dépassait la limite, alors à ce moment-là, on ne coopérait plus avec la nature, on la tyrannisait, on la détruisait. Alors c'est une question très difficile, très très difficile, mais je crois que le philosophe doit toujours la poser, même s'il ne peut pas donner de réponse. Même s'il ne peut pas donner de réponse. Vous voyez, toute la question de la fécondation artificielle, par exemple, je prends cet exemple-là, parce que là, c'est un exemple qui est typique, où l'art intervient. Alors, est-ce qu'on complète, on achève? Tout art doit imiter et achever. Imiter, ça veut dire écouter la nature. On doit écouter la nature. Parce que la nature est avant nous. Donc, on doit écouter ce rythme de la nature, on doit entrer dans le rythme de la nature. Et puis, l'achever. Saisir ce qui, dans la nature, demande un achèvement. Alors, la nature, c'est aussi l'homme. Hein. L'homme, c'est la nature dans son état suprême. C'est dans son état premier. Alors, écouter l'homme dans tous ses problèmes et l'achever. Et écouter la nature physique et l'achever. Écouter les astres et les achever. C'est très, très grand, je crois, quand on essaie de saisir ce que ça représente, le fait de tout art. Tout travail humain coopère avec la matière. Mais on peut coopérer en tyrannisant. Et si vous tyrannisez, vous détruisez. Alors il y a la ruade de l'âme. Et la ruade de l'âme, c'est justement quand on a tyrannisé la nature et qu'on l'a exploitée, exploitée, tyrannisée, c'est-à-dire ne plus voir que le point de vue de l'efficacité immédiate. Sans regarder la finalité. La nature a une fin. Il y a une harmonie à cause de ça. Il y a un ordre à cause de la fin. Alors quand vous ne regardez que l'efficacité immédiate, vous la tyrannisez. Et à ce moment-là, en la tyrannisant, vous la détruisez. Et alors ce qui fait que le cycle profond de la nature est comme détruit. Le milieu dans lequel on est comme détruit. Ça, c'est une question qui, pour moi, je crois, doit être tout le temps présente quand on est en face du progrès de la technique, où on regarde ordinairement une efficacité immédiate et on ne voit pas assez que l'efficacité immédiate n'est pas suffisante. Il faut regarder aussi la finalité. Alors la finalité, c'est de prendre du recul par rapport à l'efficacité. On prend du recul pour voir en profondeur. Pour voir en profondeur jusqu'où on va. Est-ce qu'on ne va pas dans une piste qui risque de nous mettre dans une impasse? Parce que tyranniser, c'est se mettre dans une impasse. Et la tyrannie, on sait très bien, appelle la révolte. Bon, au point de vue politique, on sait très bien, mais au point de vue de la nature, c'est la même chose. Il y a des révoltes de la nature qui sont très fondamentales. Alors, donc là, et puis un troisième point, le hasard. Le hasard, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'est ni de la nature ni de l'art. Hein. Vous voyez, ce qui n'est ni de la nature ni de l'art, c'est les miettes, les déchets, tout ce qui est paumé dans la nature. ça c'est le hasard. Tout ce qui n'est pas dans l'intention de la nature, tout ce qui n'est pas dominé par l'homme, le hasard. Le hasard, ce que je ne connais pas, dont je ne connais pas la cause. Je ne sais pas, je ne vois pas. Ça me met dans un état de... C'est vrai, quand on est devant le hasard, on est un peu perturbé. Parce qu'on n'a plus les déterminations, on n'a plus quelque chose qui nous donne l'intelligibilité. La cause nous échappe. Or, le hasard, dans l'ordre de la nature, c'est la cause matérielle. C'est l'indétermination fondamentale de la nature. Alors, l'indétermination fondamentale de la nature, c'est le hasard. Vous voyez, quand il y a des barrages, je me souviens, il y a quelques années, le barrage de Fréjus, hein, qui avait tellement parlé, qui avait fait des dégâts énormes. Quand vous faites techniquement, hein, alors on fait les procès, c'est du reste très intéressant, parce qu'on veut lutter contre le hasard. Mais on va chercher d'où ça vient. Qu'est-ce qui est coupable dans cette histoire-là? Est-ce que c'est le technicien qui a fait cette plainte? Est-ce que c'est la réalisation? Est-ce que c'est celui qui devait avant saisir le terrain dans lequel ça se trouvait? Et si on avait le droit de construire à cet endroit-là, on risquait de faire que quelque chose roule? Quand on construit des immeubles sur un terrain qui est vraiment instable. Alors à ce moment-là, on voit que l'immeuble s'effondre. Et qu'est-ce qui est le coupable? L'architecte ou celui qui avait donné les renseignements avant et qui avait regardé le terrain, qui avait regardé les fondations? Pourquoi vous prenez ça? La cause matérielle, le hasard. Jamais on ne dominera totalement la nature avec la plus grande technicité, la plus grande précision. Jamais on ne dominera totalement les yeux. Parce qu'il y a la cause matérielle. Et la cause matérielle, c'est quelque chose de fondamental qu'on n'arrivera jamais à épuiser. C'est ça que ça veut dire, la cause matérielle. La matéria prima, c'est justement cette indétermination fondamentale qui existe, qui est dans notre monde. On n'arrivera jamais totalement, même avec les précisions les plus grandes. Pourquoi? Parce que notre connaissance est abstraite. Même quand on veut être très concret, la connaissance est toujours abstraite. Parce que qu'est-ce qui est intelligible? C'est pas la matière, c'est la nature-forme. Et c'est la nature-forme qui me permet de déterminer. Et toutes mes idées, si concrètes qu'elles soient, tous mes plans, si concrets ce soit, restent toujours selon un mode abstrait. Et donc, il y a quelque chose qui échappe, la cause matérielle, d'où le hasard. Et le hasard, c'est justement l'anti-détermination. C'est quelque chose qui montre, qui rappelle, c'est la gifle, c'est pour ça que c'est terrible, hein, pour le technicien qui a fait le mieux possible son plan avec le... Il y a une brisure. Les fêlures de Kierkegaard, hein, les fêlures métaphysiques. On est tous des bons hommes fêlés. Et toute la nature est fêlée. C'est pas drôle de construire dessus. Parce qu'on ne sait jamais si ça arrivera. Alors c'est les fêlures fondamentales. C'est la cause matérielle, le hasard. Donc, c'est pour vous montrer cette petite division d'Aristote. Hein. Là, on voit très très bien cette petite division qui donne, ça soulève des mondes. Hein. Nous le prenons comme ça, très très bien. Mais vous voyez que c'est tout de suite une très belle vision de la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature n'est pas tout. Alors vous voyez cette chose qui est quand même très importante, je vous dis ça à titre justement de vision sur la manière dont Aristote regarde le cosmos et la manière dont saint Thomas l'a regardé, parce qu'il l'a pris à Aristote. Vous avez la nature forme, alors morphée, et la nature matière. Ça, c'est la grande division de la nature. Mais la question de l'art, vous retrouvez dans l'art Eidos. Ici, c'est morphée. C'est la forme morphée, c'est-à-dire la forme qui informe la matière. Eidos, c'est au point de vue de l'art. Et vous avez une matière. Vous retrouvez la même division. Forme, matière. Eidos, matière. Le hasard, uniquement la cause matérielle. L'Eidos nous échappe complètement.
Est-ce qu'on peut voir le lien direct entre les pelures qui sont au niveau de la cause matérielle et les pelures dans la distinction essai et essence?
Fondamentalement, oui. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même niveau. Parce qu'ici, on est au niveau physique, tandis que là, on est au niveau métaphysique. Analogiquement, c'est la même chose, c'est toujours la différence entre le point de vue de l'art et de la puissance.
Est-ce que ce n'est pas même la distinction essence, la cause, que c'est la cause
de l'humain? Non, 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 non. Vous ne pouvez pas déduire de ça le point de vue de la distinction de cause et matière, matière et forme. La matière a quelque chose d'irréductible. C'est propre au monde physique. Vous ne pouvez pas déduire le monde physique du monde métaphysique. Ça, c'est ce que la scolastique a voulu faire. Et c'est faux. Je ne peux pas déduire de la métaphysique. À partir de la métaphysique, je déduirai tout. Ah, pas du tout. Il y a une expérience du monde physique. Et l'expérience du monde physique est irremplaçable. Ça, c'est impossible autrement. Ce n'est pas en faisant ma métaphysique que je vais comprendre ce que c'est que le cosmos. Non, non, non. Il faut le regarder. Il faut l'inspecter. Il y a quelque chose d'unique. Et la connaissance de la cause matérielle implique une expérience propre à la cause matérielle. Vous voyez ? Mais fondamentalement, la distinction de essence et existence, c'est-à-dire ce qui est en puissance, ce qui est capable d'exister et ce qui existe, donc la distinction de l'acte et de la puissance, est une distinction métaphysique la plus fondamentale, et parce qu'elle est la plus fondamentale, vous la retrouvez partout. Mais analogiquement, sans déduire. Oui, sans déduire. Hein. L'analogie ne permet pas la déduction. Ça a été l'erreur de la scolastique. Ça a été de se servir de l'analogie pour déduire. Or, on ne peut pas déduire. On doit revenir à l'expérience. Et une expérience propre de tout le monde matériel et de la nature. Que je ne peux pas déduire à partir du monde physique, de la métaphysique.
Est-ce que c'est le même mot pour les deux matières?
Ah non, c'est matière. Vous savez, la matière, elle est connue analogiquement. C'est-à-dire, chaque fois que vous parlez de la matière, vous devez savoir à quel niveau vous êtes. Ici, vous êtes au niveau principe et co-principe. Un co-principe. C'est-à-dire, c'est un principe qui accompagne toujours un autre principe. La matière, ça colle à la forme. C'est un co-principe. C'est un principe qui ne peut pas exister tout seul. La matière n'existe jamais toute seule. Jamais. Elle est fondamentale. Alors, c'est un co-principe. C'est ça qu'on dit, un co-principe, ce n'est pas un principe au sens absolu. C'est quelque chose qui accompagne tout le temps, qui est tout le temps relatif à l'autre. Alors, la matière ici, c'est aussi, d'une certaine manière, un co-principe au travail humain. Je ne peux pas travailler sans matière. Comment je marche le chapeau ? Je ne peux pas travailler sans matière. La matière rectifie tout le temps le travail humain. Même en logique, il y a une matière. Hein. C'est le conditionnement humain. Conditionnement de mon intelligence. Mais alors, la matière ici, c'est une réalité. La matière sur laquelle je travaille, c'est une réalité. C'est une réalité plus ou moins amenuisée, mais c'est une réalité. Mais quelle est l'analogie entre les deux? C'est que la matière est en puissance, capable d'être transformée. Ici, c'est aussi en puissance. Et l'analogie est en plein dessous. Ce sont deux potentialités différentes. Et ici, quand vous prenez la cause matérielle, vous prenez la matière dans ce qu'elle a de fondamental, dans son indétermination, qui échappe au regard de l'homme, qui échappe à la nature fondée, à un monstre. Tout ça vient à un monstre. On cherchera tout le temps. Il y aura quelque chose qui échappe à la science. C'est la limite de la science. C'est la limite du dominium de l'homme sur la réalité. Il y a quelque chose qui échappe. Je crois que plus l'homme domine, vous voyez, plus l'homme domine l'univers, plus l'homme le rend, si vous voulez, le rapporte à lui-même, plus, d'une certaine manière, le point de vue du hasard, le point de vue de la cause matérielle, va se manifester avec force. L'écart entre le domaine formel, le domaine de la détermination et le domaine de l'indétermination se manifeste plus. C'est normal, du reste. Alors, vous voyez bien que cette petite distinction que prend Aristote, on avait passé très vite là-dessus la dernière fois, je reviens exprès dessus, parce que c'est une division, c'est donné comme une division. Ceci présuppose toute une élaboration philosophique. Et je crois qu'elle reste très vraie. Elle reste très vraie. C'est que vous pouvez distinguer encore de cette manière-là. Ce n'est pas du tout périmé. Parmi les choses qui sont en devenir, donc partout il y a le mouvement, les unes le sont par nature, d'autres par l'art, d'autres par l'effet du hasard. Et l'effet du hasard, c'est comme si on personnifiait le hasard, hein, à la mono. N'est-ce pas? Ça vient du hasard à la nécessité. Bon, alors, le hasard pris ici, c'est la cause matérielle. Mais toutes deviennent par quelque chose. Alors. Mais toutes, là, vous voyez, on voit les différentes causes, les différentes sources, les trois sources du devenir. Les trois sources du devenir. En vision théologique, nous dirions qu'il y a une quatrième source. Quatrième source, la cause première. Et c'est là où se situerait la providence. Alors on serait dans une vision de théologie. Alors qui assumerait tout et qui montrerait que même la matière est intelligible pour Dieu. Il n'y a que pour Dieu. Il y a Dieu qui épuise l'intelligibilité de la matière. La matière est lumineuse pour Dieu. C'est pour ça que, vous savez, prenez ça, l'exemple que dit quand notre Seigneur est en face de la... Là, on passe en théologie, hein, changement de vitesse. Mais on a le droit de regarder ce texte-là. Vous comprenez, quand Jésus est devant la veuve de naissance. Pourquoi? Alors, les gens cherchent la cause efficiente, d'où ça sort. La nature, le péché, on avait situé le péché. Le philosophe n'a pas situé le péché, parce que ça viendrait là, vous voyez, les causes errantes. Dans l'art, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des... Alors, d'où vient ça? Et Jésus dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Et donc, c'est la récupération. Hein, au sens le plus fort, c'est la récupération. Et cette récupération, elle se fait par la providence et le gouvernement du monde. Dieu récupère tout. Pour Dieu, il n'y a pas de miettes. Il n'y a pas de choses extrinsèques. Les miettes qui tombent à table, hein, c'est très significatif, ça.
Quand on regarde la providence, il n'y a plus de hasard. Il y a donc la troisième source. C'est-à-dire,
le hasard existe toujours par rapport à l'homme.
Oui, ça dépend du regard.
Voilà. C'est comme le hasard existe toujours, ces trois distinctions existent toujours, et il y en a une quatrième qui permet d'assumer. Alors vous direz que tout relève sur la sagesse de Dieu. Et Dieu ayant voulu créer un monde physique dans lequel la matière est co-principe, Dieu donc savait très bien qu'il y aurait le hasard. Pour Dieu, ce n'est pas le hasard. Est-ce qu'il le savait?
Dieu est cause matérielle.
Dieu est cause radicale. Non pas cause matérielle, mais cause radicale. Il a permis le hasard. Il a laissé le hasard. Il a laissé le hasard pour permettre, je crois, là c'est toute la grande raison pourquoi il a créé la cause matérielle, pour permettre la promotion de l'homme. Dans notre univers, il y a la promotion de l'homme, Dans l'univers, il y a la promotion de l'homme, permettre l'homme de réaliser quelque chose de grand dans l'univers, mais permettant ça, il laissait le poulage. C'est-à-dire le hasard. Il laissait la possibilité de ça, et c'est vrai. C'est le hasard qui existe. Encore une autre chose, je prends ici les différences de l'Aristote. Le devenir vital, hein, il est au niveau physique, il y a la vie qui apparaît ici. Alors, la vie s'enracine dans la nature au niveau du devenir. Oui. C'est pour ça qu'Aristote ne fait pas une quatrième distinction, ou bien une quatrième distinction, l'opération vitale. Il la met à l'intérieur progressif, il la regarde comme devenir. Comme devenir, c'est au niveau de la vie, qu'est-ce que vous avez, la distinction. Vous avez la distinction âme et corps. C'est très vrai que l'âme domine le corps et doit normalement être la forme du corps, la morphée du corps, mais que l'âme ne l'est pas tout le temps et qu'il y a dans le corps des possibilités de causer rien. Tout dans notre psychisme, c'est la même chose. Alors là, les figures métaphysiques et les figures psychologiques sont encore plus visibles. C'est toujours la cause errante. C'est la même chose. Alors, ils ne traitent pas, on pourrait très bien mettre la chose. Alors là, on aurait un nouveau principe, si vous voulez, le principe du devenir qui serait l'âme. Mais ça revient au même, ici, ça se ramène au monde physique. Oui. Parce que c'est la même distinction. Alors, mais toute chose, deviennent, ça c'est l'analyse très simple du devenir, toutes choses deviennent par quelque chose, cause efficiente, par quelque chose, à partir de quelque chose, la cause matérielle, quelque chose, l'effet. C'est dit de façon très très bref, comme les Grecs peuvent le dire. Le Grec dit ces choses-là de façon assez étonnante. Donc, toute chose provient, mais panta gignomena, donc toute chose devenant, hypotinos, ectinos, ti. C'est admirable, hein, c'est déjà. Donc, hypo, c'est à partir de, ec, non, hypo, c'est de dire par quelque chose, hypotinos. Ectinos, donc la cause matérielle, et ti. Alors le tout des ti, vous voyez, c'est le ti. C'est ce quelque chose, le tout des ti, le ti. Hupo, ec, ti. Encore plus bref. Hein? Donc toute chose provient par quelque chose, à partir de quelque chose, quelque chose. Et ce quelque chose, le todéti, je l'entends en fonction de chacune des catégories. C'est très très joli, c'est une nouvelle vision de la des catégories, vous voyez. Les catégories sont là présentes pour comprendre ce ti. Ce qui montre bien, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas développé du tout, du moins dans toutes les discussions que j'ai eues sur les catégories, on n'a pas développé ce point de vue d'Aristote ici. Et ça va peut-être donner la solution. Ces catégories ont été interprétées de multiples manières, hein, depuis Aristote jusqu'à Auban aujourd'hui. Eh bien, si vous regardez, beaucoup ramènent les catégories uniquement à l'aspect de la grammaire. Or, Aristote ici nous montre bien que ce n'est pas du tout la grammaire, que ça a un fondement dans la réalité. Et ce texte, à ce point de vue-là, est très très précieux. Il est très intéressant. Parce qu'il nous montre que le taux des ti, donc le ti, le type l'œuvre, hein, le quelque chose, le ti, le taux des ti, ce quelque chose, je l'entends en fonction de chacune des catégories. Donc les catégories viennent qualifier ce ti. Les catégories viennent me faire comprendre les déterminations particulières de ce quelque chose qui est fruit du devenir. Le terme du devenir, c'est le ti. en fonction des catégories, qu'il s'agisse en effet du ceci, de la quantité, de la qualité ou du lieu. Alors Aristote, là, vous voyez, prend les quelques mouvements dont on prendra le ceci, la génération, la quantité, la croissance, la qualité, l'altération, et le mouvement selon le temps, selon le lieu, le mouvement de la translation. Donc vous avez les quatre grands mouvements dans la perspective aristotélicienne, les quatre grands mouvements qui viennent de ce type en fonction des catégories. Alors ce type, ce quelque chose en fonction des catégories, c'est un taux des types, c'est-à-dire c'est vraiment un souci, une réalité substantielle. Le terme de toute génération, c'est une réalité substantielle. C'est un petit champ. Un taux d'éthique. Donc, regardez, vous avez un beau petit dos, taux d'éthique. C'est un petit champ, une souris. Bien, c'est un taux d'éthique. C'est quelque chose de substantiel. C'est où le point de vue de la quantité? Alors, c'est la croissance. Le mouvement dans la quantité, c'est la croissance ou la diminution. C'est le régime qui fait maigrir. C'est de l'ordre de la quantité. C'est le régime qui fait grossir, c'est de l'ordre de la quantité. Donc c'est un mouvement à l'intérieur de la quantité. Puis alors vous avez un mouvement qualitatif, à l'intérieur de la qualité, c'est l'altération. Vous allez rouler subitement, vous êtes en colère. Ou bien vous êtes pas l'endroit que vous saisissez. Alors, ça, l'altération. Et puis, le point de vue du lieu, le mouvement local. Le mouvement local se termine dans le lieu. Alors, vous voyez, le lieu, ce qu'on avait vu l'autre jour, le lieu, comme c'est, on retrouve tout le temps cette question du lieu, le mouvement local. Je change d'un endroit à l'autre. Donc, ceci en fonction des catégories. Donc, en fonction des catégories, vous avez quatre grands devenirs différents. Le devenir prendra quatre grandes orientations différentes. Et il sera toujours ou par nature, ou par l'art, ou par le hasard. Vous avez quatre devenirs qui peuvent provenir du hasard. Les générations dites naturelles, vous voyez là, on passe tout de suite pratiquement au vivant. C'est appliqué dans la vie de la nature. Les générations dites naturelles sont celles-là même dont la génération se fait à partir de la nature. Et ce à partir de quoi se fait la génération, nous l'appelons matière. Ce par quoi il y a génération est une de ces choses étant par la nature. Ce qui est le produit de la génération est un homme, une plante, une souris, ou quelque chose de cette sorte. Et ce sont ces choses que nous disons principalement être des substances. Donc la substance, c'est le tout petit, c'est le ceci, c'est le fruit de la procréation. Toutes les choses qui deviennent par la nature ou par l'art possèdent une matière. En effet, chacune d'elles a la capacité d'être ou de ne pas être. Et cela, c'est la matière qui se trouve en chacune. Vous voyez, l'essence peut exister ou ne pas exister. Alors, le parallélisme avec la matière, pour revenir à votre question tout à l'heure, ça peut être ou ne pas être. Alors ici, on est bien dans le monde physique. Dans le monde physique, c'est vraiment la matière qui est source d'être ou ne pas être. D'autres, d'une manière générale, ce à partir de quoi se fait la génération est nature. Ce selon quoi elle se fait est aussi nature. En effet, ce qui devient possède une nature comme la plante ou l'animal. Ce par quoi elle se fait est la nature dite selon la forme. Est d'une forme identique, mais celle-ci est dans un autre. En effet, un homme engendre un homme. Donc, c'est tout simplement expliquer l'analyse que vous faites du devenir de la génération. De façon très simple. Ainsi donc, les choses en devenir deviennent à cause de la nature, les autres générations sont appelées déréalisations, alors ça c'est l'art, toutes les réalisations proviennent d'un art, d'un pouvoir ou d'une pensée. Certaines parmi elles proviennent aussi du hasard, automatos, et ou de la fortune. Alors Aristote distingue toujours le point de vue du hasard et le point de vue de la fortune. Le point de vue de la fortune, c'est l'homme qui intervient. Le hasard est beaucoup plus général. Bonne fortune, j'ai la bonne fortune. La bonne fortune, je creuse un trou, je trouve une pièce d'or, un lingot d'or. Ça, c'est la bonne fortune. Il n'y avait aucune préméditation, je n'avais pas gagné ça. Je trouve ça. On dira pas le hasard. On dira le hasard aussi, ça peut se dire. On dira la bonne fortune. C'est la fortune, ça. C'est quand l'homme agit en dehors de ses intentions, en dehors de ses intentions morales, en dehors de ses intentions artistiques. Alors vous vous demandez si avec un sourcier qui découvre qu'il doit y avoir un trésor là et qui se met à creuser, qu'il découvre l'or, alors là ce ne sera plus la fortune, ce sera l'art. Donc, presque de la même façon que pour les choses qui deviennent par la nature, car certaines choses, là aussi, tout en étant semblables, naissent ou d'une semence ou sans semence. Il faudra donc examiner plus tard ce qui concerne ces choses. Quant à celles qui proviennent d'un...